Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu.
Merveilleuse scène de la visitation de Marie à Élisabeth. Élisabeth qui a l'âge d'une grand-mère, Marie qui est encore toute jeune, adolescente presque. Ces deux femmes sont enceintes par la grâce de l'Esprit-Saint, d'une façon miraculeuse. Marie se mit en route avec empressement vers cette région montagneuse, vers cette ville d'Ein Karem où habitait Élisabeth avec Zacharie. Qu'est-ce qui presse Marie autant ? Comment se fait-il que Marie soit pressée ? Elle se rend avec empressement vers Élisabeth. Certains disent que Marie voudrait partager sa joie de porter l'enfant Dieu. Oui, sûrement, mais en silence. Marie est profondément silencieuse. Marie est enveloppée par ce mystère qu'elle porte en elle. Déjà pas très bavarde, Marie est enveloppée par ce silence. Elle est presque prisonnière de ce silence. Marie non seulement n'a pas besoin, mais elle n'a pas envie de parler. On est tellement plus explicite quand on se tait. On ne dit jamais autant que quand on se tait. Vertu profonde du silence, Marie la silencieuse. Ce n'est pas le désir de parler qui la pousse. D'autres disent que Marie voudrait vérifier ce que l'ange lui a dit, puisque l'ange lui avait annoncé qu'Élisabeth en était à son sixième mois. Mais Marie n'a pas besoin de vérifier, Marie croit. Zacharie avait besoin de vérifier. Et on sait qu'il a précisément été plongé dans le silence pour avoir ce signe qu'il demandait. Marie ne demande aucun signe. Quand l'ange Gabriel lui annonce qu'elle serait elle-même la mère du Sauveur et que Dieu, dans sa bonté, a réalisé l'attente de Zacharie et d'Élisabeth, non, Marie n'a pas besoin de signe, elle n'a pas besoin de vérifier. Elle ne va pas voir Élisabeth pour vérifier ce que l'ange lui a dit. Il n'y a plus qu'une seule solution, certainement la bonne. Marie est pressée par celui-là même qu'elle porte. Il est l'amour. Il est la parole d'amour. Il est celui qui dit, l'Épître aux Hébreux le mentionne en reprenant les mots d'un psaume, le psaume 39. En entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps ». Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché, alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, comme il est écrit pour moi dans le livre. Je suis venu pour faire ta volonté. La volonté du Père, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et Dieu envoie son Fils dans le monde pour sauver le monde. Dieu envoie son Fils dans le monde pour rejoindre chaque homme, chaque personne, et pour qu'en le rejoignant, il manifeste, il rende visible l'amour du Père, l'amour insensé, l'amour invraisemblable, l'amour dont nous avons beaucoup parlé pendant cet avant. Ah, Jérusalem, la rebelle, tu t'es révoltée contre moi. Jérusalem, tu as été infidèle. Eh bien, tu vas connaître la vengeance de Dieu, tu vas connaître la revanche de Dieu. La revanche de Dieu, c'est son amour invraisemblable, insondable. Tu as péché, eh bien, je t'aimerai encore plus, jusqu'à me donner pour toi. Ce sera ta pénitence. Tu verras jusqu'où mon amour va pour toi. Ils contempleront celui qu'ils ont transpercé. Mystère indicible de l'amour de Dieu qui couvre la faute au sens propre. La faute est couverte par un surcroît d'amour. Et cet amour, Marie le porte en elle comme son propre corps. Tu m'as fait un corps pour accomplir ta volonté. J'ai dit, voici, je viens. Marie, qui est enceinte de Jésus, fait un avec lui. Elle fait un avec lui et elle est mue par celui-là même qu'elle porte, qui est plein de l'Esprit Saint. Cet Esprit qui se manifestera au moment du baptême dans le Jourdain, et avec la voix qui vient d'en haut, « Voici celui qui est mon bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Celui-là, le bien-aimé de Dieu, Dieu lui-même, est comme en Marie cet élan d'amour dont saint Paul dira que la charité nous presse, caritas urget nos. Marie est pressée par cette charité qui est en elle et qui la comble tout entière puisqu'elle est pleine de grâce. Rien, rien en elle ne fait obstacle à cet amour qu'elle porte. Elle porte celui qui est le bien-aimé. Et nous sommes reportés aux paroles du Cantique des Cantiques, le bien-aimé qui, devant sa bien-aimée, s'écrie « Tu es toute belle, ma bien-aimée, sans tache aucune. Tu es toute belle, ton visage est beau, ta voix est douce. » Bien sûr, cette parole s'adresse en particulier à Marie, l'Immaculée. Mais cette parole du bien-aimé s'adresse aussi à toute personne qui deviendrait une bien-aimée pour le Seigneur, c'est-à-dire potentiellement tous les pécheurs que Dieu veut rendre immaculés pour lui. Nous avons souligné cela ces jours-ci. C'est tellement difficile pour nous de prendre conscience, de réaliser que, étant pécheurs, Dieu nous aime de cette façon. Serions presque rassurés d'être repris, d'être corrigés par le Seigneur. C'est normal, quand on a fait une faute, on est corrigé. C'est tellement étonnant et tellement bouleversant, au sens fort, d'être corrigé par un amour qui se donne encore plus. Marie porte Jésus et lui donne d'accomplir sa mission avant même qu'il ne soit né. Marie, mère de tous les missionnaires, Marie, disciple missionnaire, disciple de son Fils, qu'elle porte encore alors qu'il n'est pas né. Jean-Baptiste était la voix qui crie dans le désert. La voix n'est pas la parole, la voix porte la parole. Marie n'est pas le corps de son Fils, mais elle en est comme l'arche d'alliance, elle porte celui qui porte tout. Elle est, au sens fort, le porte-parole. Elle porte cette parole d'amour par qui tout a été fait. Le Verbe fait chair. Par lui, tout a été fait. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Rien n'existe autrement que dans cette parole d'amour. Elle porte cette parole d'amour. Alors on comprend que la salutation de Marie à Élisabeth fasse tressaillir en Élisabeth celui qu'elle porte elle-même. D'où me vient ce bonheur, s'écrie Élisabeth, que vienne à moi la mère de mon Sauveur. Prends conscience de l'importance de ce silence qui enveloppe ce mystère. Pour descendre au fond, c'est pas seulement la rencontre de femmes enceintes, c'est tellement beau d'être enceinte, c'est tellement beau de porter la vie, bien sûr. On comprend qu'humainement, il y a un mystère magnifique, mais il y a tellement plus que ce mystère humain. Il y a le mystère divin. Comment ai-je ce bonheur que vienne à moi la mère de mon Sauveur ? Élisabeth est prévenue par l'Esprit Saint et elle a reconnu en Marie celle qui porte celui qui est l'amour. Car vois-tu, en entendant les paroles de salutation que tu m'as faites, l'enfant a tressailli dans mon sein et de fait Jean-Baptiste bondit de joie en Élisabeth. Élisabeth, c'est toute l'attente d'Israël. Israël, la stérile, elle était stérile à cause de son péché. Non pas le péché personnel d'Élisabeth, le péché d'Israël. Le péché du monde fait que le monde est devenu stérile, nous le savons tellement bien. Le péché rend stérile, le péché empêche toute fécondité. Mais Élisabeth, visitée par l'Esprit Saint, a conçu dans sa vieillesse l'enfant du miracle. L'enfant du miracle qui sera le dernier prophète de cette attente, c'est-à-dire qui rassemble en lui-même toute l'attente des siècles, l'attente de la réalisation de la promesse de Dieu, celui qui viendrait au nom du Seigneur pour sauver son peuple. Élisabeth porte en elle-même toute cette attente. Élisabeth, c'est la pointe, l'ultime pointe de l'Ancien Testament. Marie, c'est la toute première du Nouveau Testament. Elle porte la réponse à cette attente. Cette réponse fait tressaillir celui qui est l'attente de Dieu. Toi, Bethléem, le plus petit dans les clans du Judas, c'était la lecture du livre de Michée, première lecture. Tu porteras au monde celui qui va naître de toi. Nous sommes pauvres, nous sommes fragiles. Notre Église aujourd'hui est réduite à rien, humiliée profondément dans son péché. Peut-être encore plus petit que le plus petit des clans de Judas. Et pourtant, c'est de toi, le plus petit, que naîtra celui qui doit gouverner Israël. C'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Notre Église pauvre, notre Église humiliée, notre Église pécheresse, comme l'était Bethléem, est capable encore de porter, peut-être encore plus, parce qu'elle sera purifiée par sa pénitence, est capable de porter au monde celui qui vient gouverner le monde. Marie, mère de tous les missionnaires, est pour nous un modèle. Est-ce que je suis pressé moi-même par celui que je porte ? Nous allons communier, la plupart d'entre nous, tout à l'heure. Est-ce que, une fois qu'on a communié, on est pressé par le dedans pour porter au monde, non pas une salutation mondaine un jour de dimanche avec le poulet frit banal, mais la salutation vive, exultante de celui que nous portons et qui est la parole d'amour faite chair. Celui qui entend les commandements de mon Père et qui les accomplit, dit Jésus, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Nous sommes tous destinés à devenir mères de Jésus pour porter au monde cette parole d'amour, pour porter au monde ce verbe. C'est l'anti-mondanité, c'est l'anti-bavardage. Mystère de silence, mystère de joie, peut-être d'autant plus joyeux qu'il est silencieux. Mais de l'autre côté, Est-ce qu'il y a ce désir? Est-ce qu'il y a cette attente? Le drame le plus profond de notre monde, c'est qu'il n'y a plus d'attente. Peut-être que le désir est mort ici et là. Qu'en est-il de ce désir dans notre cœur? Tout l'avant, toutes les semaines d'avant que nous avons vécues, c'était pour ranimer, enflammer en nous ce désir. Où est ton désir? Où est ton attente? Réveiller l'ardeur de l'attente du désir qui est en nous. Que désires-tu? Nos désirs sont si souvent tellement pauvres, tellement matériels, tellement vains. J'entends mon bien-aimé qui vient. Il saute sur les montagnes et bondit sur les collines comme un jeune faon, une gazelle. C'est la réponse de la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. Est-ce qu'à quelques jours de Noël, nous n'entendons pas déjà cette annonce de celui qui vient pour nous sauver parce qu'il nous aime? Réjouis-toi car il vient en vaillant sauveur. Tout à l'heure, en présentant l'Eucharistie, le prêtre, au nom du Christ, en Christ, dira « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde ». Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Oui, le Seigneur est venu fêter avec chacun d'entre nous ces noces, mystères de noces. Heureux sommes-nous d'être invités à ce mystère. Serons-nous à l'heure à ces noces de l'agneau? Aurons-nous revêtu l'habit et le vêtement des noces? Est-ce que nos cœurs sont prêts à le recevoir et à l'accueillir? Peut-être certains d'entre nous, nous ne sommes pas encore confessés ces jours-ci. Je vous en supplie, faisons-le tous avant Noël. Tant et tant de communions reçues qui ne portent pas leurs fruits parce que nos cœurs sont bouchés, parce que nos cœurs sont fermés, parce que nos cœurs sont obscurcis. Laissons le Seigneur purifier nos cœurs par sa rédemption. Alors nous pourrons le recevoir en plénitude et chanter le cantique des noces de l'agneau avec la Vierge Marie. Amen.